Et pour répondre à votre question, mon jeu préféré, ou plutôt ma licence préférée, oui. c'est Zelda.
Ah oui.
Voilà, tout simplement parce que je suis tombé dedans en 98 avec Ocarina of Time, je suis devenu fan littéral de cette licence. Et surtout que le premier volet est sorti en 86, qui est l'année de ma naissance.
Et ben voilà,
donc il y a ce petit lien d'attache. Et si je peux me permettre, parce qu'il y a très très peu de temps, je vois le chrono qui tourne, je voulais juste faire un gros bisou et rendre hommage à vos confrères de la chaîne Game One, qui est la première chaîne mondiale de jeux vidéo qui existe depuis 27 ans et qui va malheureusement cesser d'émettre à la fin du mois. Donc gros bisous à toute la team Game One, toute la communauté qui soutient cette chaîne et aux salariés.
Et ben, le
Donc,
message est passé. Merci beaucoup Stéphane et désolé de vous avoir pressé. Jean-Alphonse Richard et l'heure du crime dans un tout petit instant avec une affaire assez étonnante, l'affaire Gisèle Loquet, Jean-Alphonse.
Oui, la mort de Gisèle Loquet, le mystère de la pantoufle rouge, c'est tout de suite.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
Il est 14h. Et toute l'info avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Amandine, bonjour à tous. L'indignation à gauche après la liquidation judiciaire de Brandt, le dernier fabricant de gros électroménagers en France. Il a été abandonné par l'État face à la concurrence chinoise, estime François Ruffin, député Picardie Debout. Quelques 700 salariés se retrouvent sans emploi. La justice va-t-elle à nouveau suspendre le chantier de l'A69, ce projet d'autoroute très contesté entre Castres et Toulouse? La cour d'appel administrative rendra sa décision le 30 décembre. Ce matin, le rapporteur public, dont l'avis est généralement suivi, s'est dit favorable à la poursuite des travaux. Le crash d'un petit avion de tourisme ce matin près du Havre. Une seule personne, a priori, se trouvait à bord, le pilote. Des recherches sont en cours pour tenter de le retrouver. À retenir aussi l'interdiction en Autriche du voile à l'école pour les filles de moins de 14 ans. Les députés ont adopté la proposition de loi à une large majorité, à l'exception des écologistes qui la jugeaient anticonstitutionnelle. Un nouvel entraîneur sur le banc des Canaries, c'est l'ancien coach de Valenciennes, Ahmed Kantari, qui remplace Luis Castro. Il a été limogé hier soir en raison des mauvais résultats. Le FC Nantes est actuellement 17e de Ligue 1 et donc potentiellement relégable. Et puis je vous signale ce bonus track exceptionnel ce soir sur RTL, un entretien avec une icône du mouvement hippie, la chanteuse américaine Joan Baez. S'est longuement confiée à Éric Jean-Jean, notamment sur son amour de la France. Et elle lui a fait une confidence, alors pour le moins inattendue. Sa passion pour la poésie française est née en écoutant des artistes comme Léo Ferré ou Renaud.
Je me souviens, j'habitais à Cambridge. Ça a été le début de mon histoire d'amour avec la France.
Est-ce qu'il y a eu d'autres auteurs français que vous avez aimé lire?
Je vais vous dire la première chose qui me vient à l'esprit, c'est...
La mer est sale, les poissons baissent dedans.
Ah, bah oui, bien sûr, c'est Renaud. La mer, c'est dégueulasse.
Dégueulasse, merci.
Les poissons baissent dedans.
Oui.
Et la chanson, c'est « Dès que le vent soufflera, je repartira ».
Voilà, entretien exceptionnel avec Joan Baez à découvrir en intégralité ce soir dans Bonus Track, 21h-22h avec Éric Jean-Jean. La météo demain, ça restera bien gris. Quelques averses seront possibles de la Bretagne au Cotentin et autour du Golfe du Lion. On aura quand même quelques éclaircies, notamment vers la façade est. Quant aux températures, comptez 3 à 10 degrés demain matin en général. On aura 9 à 13 l'après-midi dans la moitié nord, 13 à 17 dans la moitié sud. Il est 14h03 sur RTL. C'est donc l'heure de retrouver Jean-Alphonse Richard pour l'heure du crime.
Et on va aujourd'hui en Normandie dans l'heure du crime avec l'affaire Gisèle Loquet. Il ne reste d'elle que des cendres, mais qui l'a tuée? C'est tout de suite.
14h, 15h,
c'est l'heure du crime sur RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Macabre découverte à Ecmoville dans le Calvados. Une femme a été retrouvée carbonisée chez elle. Gisèle Loquet avait 67 ans. Il pourrait s'agir d'un meurtre maquillé en cambriolage. La police judiciaire de Caen est chargée de l'enquête.
Bonjour, Gisèle Loquet, 67 ans, ancienne restauratrice, femme de caractère, pas commode, parfois redoutée. À l'automne 1998, on retrouve son corps entièrement consumé, chez elle, en Normandie, près de Honfleur. Impossible de dire ce qu'il s'est passé. Les hypothèses se succèdent, s'entrechoquent, et si une féroce haine familiale avait alimenté ce bûcher? Gisèle Loquet, le mystère de la pantoufle rouge? L'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers, c'est tout de suite sur RTL. Mardi 17 novembre 1998, dans l'après-midi, Colette Marie appelle le commissariat de Honfleur. Elle s'inquiète du silence de sa voisine Gisèle Loquet, une veuve qui habite la vieille fermette à colombage de la Jacques-Aimée, à la sortie du bourg d'Ecmoville. Colette a dîné chez elle hier soir, huîtres et champagne. Et depuis, Gisèle ne répond plus au téléphone. À 12h30, un marchand de cidre ambulant est passé à la fermette, mais il n'y avait personne. Il a juste aperçu des lueurs de braise dans la cheminée. Deux gardiens de la paix se rendent sur place. La porte de l'habitation n'est pas verrouillée. Une forte odeur de fumée se fait sentir. Devant la cheminée, c'est un corps réduit en cendres que l'on distingue. Il ne reste rien, sauf un bout de crâne et un pied humain qui a échappé au feu chaussé d'une pantoufle rouge. La PJ de Caen est alertée, le lieutenant Yannick Leroy et le commandant Christian Morin découvrent la morte au coin du feu, bientôt identifiée comme étant Gisèle Loquet, 67 ans. La maison est sans dessus-dessous, armoires ouvertes, tiroirs renversés, même si aucun objet de valeur n'a été volé. Les policiers songent à une mise en scène. Les lunettes de la victime sont retrouvées devant la cheminée où quatre taches de sang sont visibles. Des mégots sur le sol et dans un cendrier. Gisèle Loquet semble s'être consumée pendant des heures sur son fauteuil. Les experts sont divisés sur ce scénario. L'un d'eux va même évoquer une autocombustion. La victime, connue pour boire un peu trop, aurait pu s'embraser comme une torche en étant trop près du feu. Les policiers de Caen ne croient pas à un crime de rôdeur. Faute d'indices, ils s'intéressent à la victime, Gisèle Loquet, retraitée, veuve depuis quelques mois, une figure du coin. Avec Bernard, son mari, elle a longtemps tenu un bar PMU à Honfleur, une brasserie à Cabourg, décrite comme une femme à poigne, autoritaire, voire vindicative. Pas du genre à faire dans le sentiment, selon ses proches. Elle ne s'entendait plus du tout avec les enfants de son époux, Christophe, 26 ans, et Ghislaine, 33 ans. Christophe est interrogé. Du lundi soir au mardi en milieu de journée, il était avec des amis chasseurs, alibi solide. Ghislaine a passé la soirée avec la compagne de son frère, Valérie Levillain. Elles ont dîné au restaurant. Valérie est ensuite venue dormir chez Ghislaine à Deauville. Valérie confirme l'emploi du temps. Ghislaine, entendue, ne cache pas sa détestation pour sa belle-mère et elle attire l'attention. On s'aperçoit que cette concierge d'immeuble est une joueuse invétérée. Elle dépense sans compter au casino. Ses comptes sont dans le rouge. Aurait-elle envisagé de toucher l'héritage de la belle-mère? Élément supplémentaire, son ADN et celui de sa meilleure amie Valérie apparaissent sur les mégots de la scène de crime. Lundi 29 mars 99, 4 mois après la mort de Gisèle Loquet, sa belle-fille Ghislaine Loquet et Valérie Levillain sont en garde à vue. Elles assurent n'avoir pas mis les pieds à la fermette le jour du meurtre. À propos de leurs ADN sur les mégots, elles ont rendu visite à Gisèle 2 jours avant le drame. Ceci explique cela. Ghislaine explique qu'elle était venue récupérer la casquette de son père, qu'elle adorait. Valérie l'avait accompagnée. « C'est la dernière fois que j'ai vu ma belle-mère vivante », affirme Ghislaine. Les deux femmes sont libérées, aucune charge retenue contre elles. Deux femmes dont les policiers vont à nouveau croiser la route. Une route qui va passer par un cimetière avec des révélations spectaculaires. Mais on va voir comment cette enquête va alors basculer. Et on va voir ça dans la suite de l'heure du crime. Et on va voir surtout que cette enquête, elle est très, très loin d'être terminée. Il va y avoir encore beaucoup, beaucoup de surprises. Pour le moment, on est vraiment en plein mystère. On est devant un tas de cendres dans cette vieille maison de ce petit village normand. Tas de cendres, c'est difficile pour les experts de savoir ce qui s'est passé et une scène de crime qui paraît atypique. Bonjour, commandant Yannick Leroy.
Bonjour Jean-Alphonse.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime, dans le studio de l'heure du crime. À l'époque, vous êtes directeur d'enquête à la PJ de Caen. Vous êtes évidemment occupé de cette histoire qui vous a beaucoup marqué d'ailleurs. Vous êtes l'auteur d'un livre, More Majorum, publié aux éditions Héraclès. Je signale que ce livre, il s'inspire de cette affaire. On peut le retrouver évidemment en librairie. Yannick Leroy, première question. Tout de suite, ce décor. Alors vous en avez fait des crimes, hein. Vous en avez vu des homicides, je suppose. Mais là, ce décor, c'est une énigme.
Tout à fait, une image vraiment saisissante quand on pénètre dans cette fermette en torchis, donc une fermette qui aurait très bien pu
traditionnelle
du Pays d'Auge, qui aurait d'ailleurs très bien pu partir en fumée.
Ouais.
et on n'aurait pas eu de crime. On aurait eu éventuellement une hypothèse d'un accident, puisqu'on savait que Madame Loquet, Gisèle Loquet, était, on va dire, alcoolique. Ouais. Elle consommait beaucoup d'alcool, donc on aurait peut-être conclu à un accident et un incendie qui aurait détruit la maison. Donc, nous sommes très étonnés que l'incendie n'ait pas complètement ravagé les lieux. D'ailleurs, on appelle assez rapidement un expert en incendie. Bon, a priori, il n'était pas forcément le meilleur des experts, parce qu'il n'a pas pu nous éclairer immédiatement, pardon, sur ce qui s'est passé. C'est plutôt les pompiers, d'ailleurs, qui nous ont un petit peu orientés. Mais voilà, cette scène, c'est un non-cadavre quasiment, puisqu'on a un tas de cendres. Et on a ce pied qui...
Le pied avec la pantoufle rouge.
Avec la pantoufle rouge que j'ai à un moment récupéré pour...
Pour des analyses, évidemment.
Écarter, puis amener à l'Institut Médico-Légal. Et puis, des restes du crâne de la victime, quelques os par-ci, par-là. Et puis, tout de suite, on remarque, en fait, le reste d'un fauteuil. Un reste de...
Qui a brûlé, c'est ça?
Qui a brûlé, en fait. Et on comprend que la victime a brûlé alors qu'elle était vraisemblablement assise sur ce fauteuil qui était à moins de 50 cm de l'âtre.
Il y a quelque chose de très étonnant, juste un petit point, parce que moi, ça m'a fait à la fois sourire et ça m'a étonné. C'est un des experts qui va dire, c'est peut-être une autocombustion. Cette dame, elle buvait beaucoup, elle était trop près du feu, et finalement, elle s'est embrasée. Alors moi, c'est la première fois que je vois ça, j'avoue que j'étais un peu...
Alors, on a été effectivement, on nous a interpellés sur cette possibilité. Il y a même des gens, soi-disant spécialistes dans cette matière, qui ont contacté la police judiciaire, mais on n'a pas creusé dans cette
hypothèse-là,
voilà, c'était quelque chose de farfelu. La presse s'en est un petit peu emparée, parce que c'était un petit peu mystérieux, il y avait un côté un peu sensationnel qui aurait pu, apparaître, mais alors, nous, on n'a pas creusé cette piste, il y avait d'autres pistes beaucoup plus terre-à-terre que nous avions à évaluer.
Bonjour Frédéric Le Terreux.
Bonjour Jean-Alphonse.
Merci beaucoup vous aussi d'être dans le studio de l'heure du crime, de nous rendre visite ici. Vous êtes journaliste police-justice, correspondant pour le journal du Pays Lyonnais, et vous connaissez parfaitement cette affaire, vous allez nous aider à la décrypter. Un petit mot tout de suite, Gisèle Loquet, c'est une personne qui a du caractère, hein. elle est connue dans le coin.
Oui, alors elle avait du caractère, mais est-ce qu'on peut faire autrement quand on tient un bar en fleurs, parce qu'elle avait un bar tabac PMU, dans un port, avec une clientèle parfois brute de décoffrage.
Ouais.
Faut avoir un minimum d'autorité et surtout savoir se faire respecter. C'est au moins ce qu'on peut lui attribuer.
Mais on ne se fait pas que des amis en général.
On ne se fait pas que des amis, c'est vrai.
Et ça peut-être ça pose un petit problème. Yannick Leroy, évidemment, vous venez assez vite sur la famille Loquet. Parce que vous dites, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, après tout, ce n'est pas un cambriolage, on n'a rien volé dans cette maison. Ce n'est pas quelqu'un qui rôdait dans le coin. Donc, alors, c'est peut-être un proche.
On peut se poser la question, puisqu'on s'aperçoit que la maison semble avoir été fouillée. En tout cas, les tiroirs sont ouverts, les armoires sont ouvertes, les draps sont au sol. Mais dès le début, j'ai un sentiment, qui est vraiment une première impression. Je me dis, cette fouille est un simulacre de fouille.
Ouais.
Et puis tout de suite, le premier témoin, une amie proche de la victime, Madame Colette Marie, nous fait part de ses soupçons.
Ouais.
Sur les enfants, les beaux-enfants.
C'est ça, elle dit que ça ne marchait pas dans la famille.
Ça marchait pas, voilà. Ouais. Elle nous dénonce quasiment les beaux-enfants, donc c'est-à-dire les enfants du mari de Madame Gisèle Loquet, qui est mort quelques semaines auparavant. D'ailleurs, on est en pleine succession, en plein deuil. Elle nous dit voilà, il pouvait pas s'entendre, c'était violent, c'était tendu, voilà. Donc on a une première piste. En tout cas, une première suspicion sur les enfants.
Frédéric Le Terreux, un mot sur cette famille. Effectivement, on ne s'entend pas, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
On ne s'entend pas. Et moi, tout de suite, le sentiment que j'ai quand je couvre cette affaire, qui démarre par un banal appel chez les pompiers pour faire...
Un incendie.
Divers, ouais. C'est un incendie avec une victime. Et moi, quand je vais sur place, parce que je vais sur place, je m'attends à voir une maison détruite.
Bien sûr.
En fait, extérieurement, il n'y a rien. Si on passe devant, il ne s'est absolument rien passé. Et c'est un petit peu aussi une ambiance, je trouve, qu'on retrouve dans les films de Chabrol.
Oui.
Une petite ville de province, il ne faut pas oublier qu'on est à la mi-novembre 98, l'année tire à sa fin, les rues d'Honfleur se sont vidées de leurs touristes, et tout le monde se connaît là.
Oui.
Tout le monde se connaît.
Ouais.
Et les Honfleurais, les gens d'Écumoville connaissaient bien la victime et aussi la proche famille.
Et lorsque on vous dit « attention, c'est pas clair », etc., elle est peut-être pas morte comme ça, c'est pas un accident, il y a une surprise quand même.
Ouais, il y a une surprise, mais enfin, quand vous apprenez quand même qu'il reste, parce que ça, nous, les journalistes, on le sait rapidement, qu'il ne reste plus qu'un tas de cendres et qu'un pied dans un chausson rouge, la couleur rouge a son importance, puisque c'est peut-être ça qui va permettre de savoir que c'est vraiment elle.
Ouais.
Puisque l'ami, Madame Marie, avait mangé avec elle.
Et avait vu qu'elle portait ses
voilà.
chaussons.
Ouais.
Mais effectivement, on se dit, voilà, donc il y a quelque chose de très anormal et de très bizarre qui s'est déroulé dans cette maison si tranquille. Des révélations dans un cimetière. Gisèle Loquet, le mystère de la pantoufle rouge. C'est pas glorieux ce que j'ai fait. D'accord pour les coups, mais pas pour la mort, pas pour le feu. L'enquête de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
L'heure du crime.
Jusqu'à 15h sur RTL.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ?
Je suis chef d'entreprise et je passe trop de temps sur l'administratif.
Heureusement, Banque Populaire propose un service accessible depuis mon espace client pour gérer factures et notes de frais très facilement. Du coup, je commence à anticiper la réforme sur la facturation électronique et je me consacre à ce qui compte vraiment, mes clients.
Apporter des solutions innovantes, c'est ça, être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Étude Kantar PME PMI 2025. 14 banques populaires, première banque des PME. Voir conditions générales de banque à distance et tarifaires sur banquepopulaire.fr ou dans votre agence.
Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher ?
Eh bien, chez Auchan, pour un Noël encore plus waouh, on fait le choix de vous offrir jusqu'à samedi, jusqu'à 10 euros en bon de réduction pour vos achats sur tout le surgelé avec votre carte waouh.
Jusqu'à 10 euros de réduction ? Oh, je suis chaud !
Auchan, le choix, le bon. Par tranche de 20 euros d'achat en surgelé, recevez un bon de réduction de 5 euros pour vos prochaines courses. Dans la limite de 2 bons. Conditions et listes des hyper ouvertes ce dimanche toute la journée sur Auchan.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Qu'est-ce qui vous fait aimer Noël ? C'est vous faire offrir un vélo d'appartement en faisant mine d'être surpris alors que vous l'aviez repéré dans le garage. Cette semaine, chez Decathlon, le vélo d'appartement Domios Confort et Connecté EB900 est à moins 100 euros, soit 399,99 € au lieu de 499,99 €.
Boulanger. Bon, pas de bruit en déposant les cadeaux sous le sapin, hein ? Manquerait plus qu'on réveille tout le monde. À pas de velours.
Promis, je serai aussi silencieux qu'Alice Ifray.
Mais qu'est-ce que tu racontes, là ? Vivez la magie de Noël avec Boulanger. La friteuse sans huile Moulinex, la plus silencieuse de sa catégorie, est à 99,99 € au lieu de 149,99 €. Et profitez du service satisfait ou remboursé jusqu'au 31 janvier. Boulanger, plaisir partagé. Jusqu'au 28 décembre, 36 centimes d'éco-participation, conditions boulanger.com.
Leclerc, bonjour.
Oui, j'ai vu votre promo sur le café. Je crois qu'on s'est compris.
Sûrement, mais à quel propos ?
Bah, les petits matins de décembre, il fait froid, il fait noir, et paf, moins 34% sur le café pour nous aider à sortir du lit.
Et ça marche, non ? Alors les 11 et 12 décembre chez Leclerc, venez profiter de moins 34% avec votre carte sur les cafés des marques Grand-Mère, L'Or Espresso et Maxwell House. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Là, vous entendez ? Et vous vous dites, nom d'un petit lutin, c'est Noël chez le roi Merlin et je n'ai pas fini ma liste. Et alors là, quand je dis que jusqu'au 6 janvier, le radiateur électrique Noiro 1000 watts avec détecteur de présence est à seulement 229 € au lieu de 259, soit 30 € d'économie, là, vous prenez les clés du traîneau et vous filez directement chez le roi Merlin.
Le roi Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Mais où peut-on trouver des fruits de saison à prix coûtant ?
Oh, le kiwi jaune à 59 centimes d'euros la pièce à prix coûtant ? Vous permettez que j'en profite ?
Chérie, prends-en plein pour ce week-end !
Si vous aussi vous voulez en profiter, dépêchez-vous. Chaque semaine, retrouvez 4 fruits et légumes à prix coûtant. Du 11 au 13 décembre dans vos magasins U, le kiwi jaune à prix coûtant est à seulement 59 centimes d'euros la pièce. 59 centimes d'euros dans vos magasins U et sur Course U.
Variété Sun Gold, calibre 114-124 grammes, catégorie 1, origine Italie. Voir modalité et magasins participants sur magasin-u.com.
Au fait, t'as besoin de quoi pour Noël ?
Bon, j'ai besoin de rien.
Rien ou rien en taille M ?
Rien, mais en L, faut bien laisser un peu de place pour la bûche.
Chez Jules, profitez de 40% de remise dès l'achat d'un second pull.
Remise appliquée sur le moins cher des deux pour l'achat simultané de deux pulls parmi la sélection identifiée. Offre valable jusqu'au 21 décembre, voire conditions en magasin sur jules.com.
14h, 15h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Gisèle Loquet. Cette veuve a été retrouvée totalement carbonisée chez elle en Normandie à l'automne 98. Ni suicide ni accident. Les enquêteurs penchent pour le meurtre. Investigation à l'arrêt. 10 mois plus tard, un témoignage change tout. Jeudi 2 septembre 1999, autour de 14h, les policiers en charge de l'affaire Gisèle Loquet reçoivent un surprenant coup de fil. la belle-fille, Ghislaine, a des choses à leur dire, mais pas n'importe où. Elle leur donne rendez-vous devant la tombe de son père, au cimetière de Saint-Martin au Chartrain, pas très loin de Pont-l'Évêque, sur place. Il retrouve Ghislaine loquée, livide, devant le caveau familial. Elle raconte avoir fait un rêve qui la perturbe. Son père lui est apparu. Il lui a conseillé d'aller voir la police. « J'y suis pour quelque chose dans la mort de Gisèle », lâche-t-elle. En garde à vue, Gisèle Loquet raconte la soirée et la nuit du 16 au 17 novembre 1998. Ce soir-là, elle s'est rendue au restaurant avec Valérie Levillain, sa meilleure amie, sur la route de Honfleur. Les deux femmes sont passées devant la fermette de la Jacques-Aimée. Ghislaine a remarqué une voiture qu'elle ne connaissait pas. Elle était intriguée. Elle a pensé qu'un homme était peut-être entré dans la vie de sa belle-mère. Peu après minuit, alors que Valérie dormait, elle est ressortie. Elle est allée à la fermette. Sa belle-mère était devant la cheminée. Elle avait bu. Le ton est monté. Gisèle l'a insultée. Elle a insulté aussi sa mère défunte. Ghislaine lui a donné deux coups de poing. Elle a pris une bûchette. Elle a frappé à la tête. J'ai mis une raclée et je suis partie. Je l'ai pas tuée et j'ai pas mis le feu. Elle était vivante, consciente, assise près de la cheminée où il y avait une belle flambée, déclare Ghislaine Loquet, mise en examen pour homicide volontaire et écrouée. Devant la juge, Ghislaine Loquet va raconter que sa belle-mère, Gisèle, l'a terrorisée alors qu'elle était enfant et adolescente, méchante, cruelle, une marâtre alcoolique qui ne supportait pas ses beaux enfants. Elle a enduré le pire, 28 ans de malheur, dit-elle. Ghislaine dit que ce soir-là, la colère s'est emportée d'elle. Elle a frappé, mais elle n'a pas tué, elle n'a pas mis le feu. L'expert psychiatre évoque une crise passionnelle. Elle s'en est pris à une femme qui la faisait souffrir et lui aurait volé son père. Mardi 28 novembre 2000, deux ans après la mort de Gisèle Loquet, la belle-fille, Ghislaine, 35 ans, est devant la cour d'assises du Calvados à Caen. Cheveux blonds, mi-court, petites lunettes de vue, sobre tailleur bleu marine. Elle paraît timide, mais c'est pourtant sans hésitation, d'une voix claire, qu'elle raconte une enfance tragique. À 7 ou 8 ans, elle a perdu successivement dans des accidents de voiture sa petite sœur et sa mère. Gisèle est entrée dans la vie de la famille et là tout a changé. Une femme méchante qui lui interdisait de toucher aux affaires de sa mère, la maltraitait, l'humiliait. À 16 ans, elle a quitté la maison. Des petits boulots, une fille qu'elle a élevée seule, la mort de son père. À propos de la soirée tragique, elle dit « Je ruminais. J'avais vu une voiture devant chez Gisèle. J'ai pensé, c'est pas possible. Elle a déjà remplacé papa. » Elle poursuit « C'est pas glorieux ce que j'ai fait. D'accord pour les coups, mais pas pour la mort, pas pour le feu. » Son avocate l'assure, l'incendie est accidentel. L'avocat général affirme lui que Ghislaine a bien tué la belle-mère dans un déferlement de violence. Il réclame 12 ans de prison. Ghislaine Loquet est condamnée à 7 ans pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. 7 ans de détention pour Ghislaine. L'affaire est terminée. La belle-fille a tué la belle-mère. C'est un coup de colère. Le dossier, c'est fini, c'est clos, c'est bouclé. Enfin, c'est ce qu'on croit parce que 5 ans plus tard, il va y avoir un incroyable coup de théâtre. Mais ça, on le réserve pour le chapitre suivant de l'émission. Alors, il y a cette, il faut revenir tout de suite à cette confession dans le cimetière. Commandant Yannick Leroy, vous êtes avec nous dans cette heure du crime. Évidemment, on est 10 mois après l'enquête. Ça fait 10 mois que vous travaillez sur le dossier. Vous n'avez pas pu sortir un suspect vraiment qui soit costaud. Et puis, il y a ce témoignage de Ghislaine Loquet. Elle vous convoque dans un cimetière de la région. Ça, c'est pas banal déjà. Et là, elle va vous dire, ben moi j'y suis pour quelque chose dans cette histoire, c'est j'ai frappé ma belle-mère. Pourquoi elle vous dit tout ça?
Alors tout à fait, c'est surprenant, c'était même le premier coup de théâtre dans cette enquête, qui était un petit peu dans une impasse. Tous les témoins, tous les proches de la victime nous désignaient les beaux-enfants, ça ne peut être qu'eux. Mais on les avait écartés, car l'alibi qu'ils avaient produit dans la période où nous pensions que l'homicide et la mort avaient été survenus, les écartait. Et donc, c'est presque un an après les faits que Ghislaine Loquet nous téléphone à notre service et nous demande de passer à 15h sous la tombe de son père dans ce petit cimetière de Saint-Martin au Chartrain. Et c'est presque théâtralement, elle est assise auprès de la tombe de son père, elle a un jogging blanc, et cette phrase, textuellement, c'est à cause de moi que Gisèle est morte.
Et c'est à cause de moi que tout ça est arrivé, bien sûr.
Et donc, et cette phrase-là, quand on la met en perspective après, avec ce qu'on a appris par la suite, mais on en parlera plus tard, est très intéressante. Parce qu'elle ne dit pas « j'ai tué », elle ne dit pas « j'ai tapé et elle est morte », mais « c'est à cause de moi ».
C'est à cause de moi, alors ça c'est très important.
Ça insinue quelque chose.
Bien sûr.
Et qu'à ce moment-là, on ne peut pas analyser, parce qu'on ne peut pas la mettre en perspective.
Et en deux mots, pourquoi elle vous dit ça? Pourquoi est-ce qu'elle se met à table? Parce qu'effectivement, elle était à l'abri, vous alliez plus la chercher, etc. Non, ou sauf accident, sauf indice, mais elle était à l'abri.
Alors, c'est une femme croyante qui nous dit « je ne peux plus rentrer dans une église ». La nuit, mon père me dit d'aller voir les policiers. Et donc, j'ai besoin de, en quelque sorte, me confesser auprès de la police pour expier ma faute, expier les raisons pour lesquelles Gisèle est morte.
C'est du remords. Hein,
on est, en tout cas, c'est ce qu'elle nous dit.
On est dans le remords et dans une espèce de rêve avec son père.
Et là, elle se met toute seule en cause. Mm. Et elle nous raconte ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que effectivement, ce soir-là, après la soirée passée avec sa belle-sœur Valérie, elle a un soupçon de d'infidélité post-mortem de son père, et elle va la voir.
Et là, ça dérape. D'ailleurs, on n'a pas vraiment les détails, tout ça est un peu flou et confus, mais le fait est que ça dérape et qu'on va retrouver Gisèle Loquet morte sur ce fauteuil. Frédéric Le Terreux, vous êtes journaliste, correspondant pour le journal du Pays Lyonnais, et avec nous parce que vous connaissez parfaitement ce dossier. Elle va être jugée, Ghislaine Loquet. En arrière-plan de ce procès, et en arrière-plan de cette histoire, elle va dire que c'était insupportable, la vie avec la victime, que c'est une femme qui l'a terrorisée pendant des années.
Tout à fait, et tout au long de ce procès d'assises, hein, alors ça fait 25 ans, je ne sais plus combien de temps ça a duré, 2 jours ou 3 jours, le ressentiment familial suinte dans tous les pores de ce dossier. Les mauvais traitements au moment de son enfance, les brimades, etc. Peut-être même avec des comportements qui vaudraient de nos jours une comparution devant un tribunal judiciaire pour mauvais traitement sur enfant. Ouais. Et je pense que tout ça accumulé a fait qu'on a eu cette explosion de colère. Elle a dû le dire à un moment donné, d'ailleurs, pendant le procès, une explosion de colère.
Oui, elle dit « j'ai vu rouge ».
Voilà.
Elle dit « j'ai vu rouge, j'ai explosé et je me suis jeté sur elle ». Mais ça, ce récit, c'est important d'en parler de ce récit, parce qu'il donne du corps à ce qu'elle dit. Elle est sincère.
Et on dirait vulgairement, c'est un pétage de plomb maintenant. Et je pense que c'est une accumulation de tous ces mauvais traitements, ces ressentiments, ces problèmes familiaux qui ont fait que, voilà, il s'est passé la scène atroce dans cette maison de la Jacques-Aimé du 16 ou 17 novembre, dans la fameuse nuit du 16 ou 17 novembre 98.
Yannick Leroy, on entend ce que dit Frédéric Le Terreux. Vous êtes d'accord avec ça? Vous la trouvez sincère, cette femme, quand elle vous dit « j'en pouvais plus » ?
Tout à fait. Elle a été martyrisée, frappée. Sa petite sœur est morte, sa maman est morte. Donc voilà, elle a une enfance terrible. Elle n'a cessé de protéger son petit frère des coups de Gisèle Loquet. Et donc, effectivement, ce soir-là, on est au climax de la haine. Oui. L'alcool aggravant les sentiments, les ressentiments. Et elle craque, effectivement, elle craque. Un mot de trop, une insulte de trop.
Le fait est, Frédéric Le Terreux, c'est qu'on ne sait pas comment cette femme est morte, finalement.
Mais non, on ne sait pas.
Ben voilà, parce qu'elle a pris des coups, elle m'a dit « je l'ai laissée vivante ».
D'ailleurs, elle le dit, quand j'ai quitté la maison, Gisèle vivait toujours.
Oui, c'est ça.
J'ai frappé, mais je n'ai pas tué.
Et le feu, pareil. On ne sait pas qui a mis le feu.
Hein, évidemment, on a ressorti des thèses d'autocombustion, oui, mais ça ne tient pas trop la route.
Mais il y a plein de choses qui ne tiennent pas la route, mais là, effectivement, on se pose quand même encore beaucoup de questions. 5 ans plus tard, des révélations qui vont changer, bouleverser tout le scénario. Gisèle Loquet, le mystère de la pantoufle rouge. On s'était dit, la première qui craque couvrira l'autre. L'enquête de l'heure du crime. Et si la belle-fille n'avait pas été seule dans la fermette, devant la cheminée, avait-elle conclu un pacte criminel avec quelqu'un d'autre? À suivre dans un court instant sur RTL.
14h, 15h.
C'est l'heure du crime sur RTL.
Jean-Alphonse Richard.
À Noël, on se pose toujours la même question. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir offrir? Un parfum? Classique. Des chaussettes? Bof. Un cadeau qui décrochera un waouh au pied du sapin? Ouais. Mais quoi ?
Et si la réponse se trouvait chez Cultura ? En ce moment, profitez d'un Noël plein d'idées. Leurs conseillers sont là pour vous aider à trouver des cadeaux culturels à prix doux pour toute la famille. Avec Cultura ou sur cultura.com, plus besoin de chercher des idées. Elles sont toutes là. Cultura, la culture avec un grand A.
RTL.
Lidl, ça vaut le coup. La bûche pâtissière exotique de luxe à 5,59€, ça vaut délicieusement le coup. Joyeuse nouvelle, retrouvez plus de 100 produits de la gamme de luxe, comme la bûche pâtissière exotique à moins 20% avec Lidl Plus, soit 5,59€ au lieu de 6,99€. Lidl, ça vaut le coup. 420 grammes, 13,31€ le kilo avec Lidl Plus, 16,64€ le kilo sans. Saveur mangue, fruit de la passion et vanille. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, bougez plus.
Tu sais quoi ? Je crois que je vais me faire arrêter.
Te faire arrêter ? Vraiment ? Genre, t'as décidé ça tout seul ?
Ben, ouais, j'ai envie de me prendre une pause, quoi.
Ouais, mais un arrêt de travail, c'est comme un traitement, et y a que ton médecin qui peut savoir si t'en as besoin. Ou pas, d'ailleurs.
Bah, moi, ce que je sais, c'est que j'aimerais bien me faire arrêter.
Ah ouais, mais jamais un médecin t'arrêtera juste parce que t'aimerais bien. Ah, par contre, si ça va vraiment pas, tu devrais peut-être lui en parler.
L'arrêt de travail, seul votre médecin sait si votre état de santé le nécessite ou pas. Notre système de santé, c'est aussi à chacun d'en prendre soin.
L'assurance maladie.
Carrefour. Quand vous me dites « Mon chat aussi mérite un repas savoureux pour Noël », eh bien ça me donne envie de vous dire que c'est un Noël pour tous les goûts chez Carrefour, avec 60% de remise immédiate sur le deuxième produit Sheba acheté. Et c'est valable sur tout Sheba. Alors rendez-vous jusqu'au 21 décembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive et sur votre appli Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors conditionnement promotionnel, selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr.
Peugeot. Vous êtes au volant et vous vous dites que vous vous feriez bien un très beau cadeau. Cette saison, non ? Chez Peugeot, c'est l'opération départ immédiat. De nombreux modèles disponibles dès maintenant avec jusqu'à 5 700€ d'avantage client. Et pour plus de sérénité, Peugeot vous offre jusqu'à 8 ans de garantie sur toute la gamme. Rendez-vous dans votre point de vente.
Offre réservée aux particuliers, valable pour toute commande d'une Peugeot 9 immatriculée jusqu'au 31 décembre. Garantie Peugeot Care, conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Mais où peut-on profiter de 55% d'économie sur un set de cuisson Tefal Ingénio ?
55% ? Je suis tout feu tout flamme !
Elle s'adapte à tout type de feu ! Jusqu'au 13 décembre, profitez du set de cuisson Tefal 10 pièces Ingénio à 44,99€ au lieu de 99,99€. Et en plus, 5€ reversés sur votre carte U, soit 39,99€ le set ! Dans vos magasins U et sur Course U.
Offre valable pour un retrait jusqu'au 13 décembre, quantité limitée à 35 000 pièces. Prix conseillé par coopérative U au magasin U participant. Conditions sur magasin-u.com.
14h-15h, Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
J'avoue aux policiers que Valérie était là effectivement et que j'ai frappé la première et qu'ensuite Valérie l'a frappé aussi. Après l'avoir frappé, nous avions laissé Gisèle dans sa maison assise dans son fauteuil, bien consciente et bien vivante.
Retour dans l'heure du crime avec l'affaire Gisèle Loquet. Une veuve, 67 ans, morte carbonisée dans sa maison en Normandie en 98. Sa belle-fille a reconnu des coups, mais pas le feu. Condamnée pour violence sans intention de donner la mort. 5 ans après ce verdict, un coup de théâtre. 2005, une femme entendue dans un dossier de violence sur enfant par un juge de Caen dit avoir des choses à dire sur sa dénonciatrice, une certaine Valérie Levillain. Celle-ci lui aurait avoué être impliquée dans la mort d'une dame âgée dans une fermette à Ecmoville. Elle l'avait frappée à coups de bûche. Valérie Levillain n'est autre que la meilleure amie de Ghislaine Loquet, condamnée à 7 ans de prison pour ce crime d'Ecmoville. Une enquête est alors très discrètement ouverte. Ghislaine Loquet, sortie de prison après avoir purgé sa peine, va être réentendue. Elle affirme à nouveau qu'elle était seule. Valérie n'a rien à voir dans tout ça. Pourtant, placée sur écoute, elle évoque ce rebondissement et ne cache pas son inquiétude. Lundi 9 octobre 2006, 8 ans après la mort de Gisèle Loquet, Valérie Levillain est en garde à vue. Elle nie en bloc. Elle n'était pas dans la fermette de la Jacques-Aimée le soir du drame. Les enquêteurs l'informent de la déposition de sa propre sœur, laquelle a déclaré « Valérie a achevé Gisèle ». Quant à Ghislaine Loquet, elle vient de craquer en garde à vue. « J'ai frappé la première. Valérie a suivi. Gisèle était sur son fauteuil. Valérie Levillain finit alors par déclarer « Oui, j'ai menti, oui, j'étais présente, mais je n'ai pas donné de coup ». Elle raconte être restée dans une chambre. Gisèle Loquet était, selon elle, en vie à leur départ. Elle dément que les deux copines aient passé un pacte criminel. Valérie Levillain passe 5 mois en prison, 4 ans plus tard. La justice organise enfin une reconstitution. Valérie Levillain répète qu'elle n'a pas touché la victime. Ghislaine Loquet l'accable. Elle la présente comme la meurtrière. Elle a étranglé Gisèle. Dans son fauteuil, un morceau de drap a propagé le feu. Et évidemment, on ne peut pas rejuger Ghislaine Loquet pour les mêmes faits. Mais Valérie, oui. Et évidemment, ça donne tout autre éclairage à cette affaire. Frédéric Leterreux, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, journaliste. Vous avez suivi toute cette affaire. Alors évidemment, cette révélation, ça change beaucoup de choses dans le mode opératoire de l'affaire. Même si, effectivement, Valérie, elle reste sur ses positions. Elle va dire « Oui, j'étais bien dans la maison, mais j'ai rien fait ».
Tout au long du procès, elle est restée droit dans ses bottes. Elle a dit « J'étais présente, mais j'ai pas frappé ». Alors que de l'autre côté, vous avez quand même 2 témoignages différents. Il y en a une qui dit qu'elle était sur la victime à califourchon et qu'elle lui serrait le cou. Ghislaine qui dit que c'est elle qui l'a achevé. Donc des déclarations à géométrie variable qui peut-être in fine vont la servir au moment du verdict.
Ouais, mais ça on va le voir, le voir dans le chapitre suivant. N'allons pas trop vite parce qu'effectivement, en tout cas, elle dit moi je suis dans la maison, mais j'ai rien fait. Commandant Yannick Leroy, à l'époque vous êtes directeur d'enquête à la PJ de Caen. Évidemment cette affaire vous la connaissez par cœur, vous l'avez suivie de A à Z. Comment est-ce qu'elle se comporte Valérie Levillain en garde à vue? Qui est cette femme?
Alors pour nous effectivement c'est un deuxième coup de théâtre, cette révélation
complètement
vraiment par hasard sur une affaire complètement distincte de dont on n'avait pas connaissance bien évidemment. Valérie Levillain, c'est une femme forte qui a sûrement une enfance difficile, mais c'est une femme tendue dans l'agressivité, même en garde à vue elle était quasiment prête à se battre. Et donc elle est vraiment sur ses ergots, elle nie jusqu'au moment où on lui met en évidence les procès-verbaux de déclaration de Ghislaine Loquet qui la met en cause.
Alors il va se passer, c'est important, commandant Yannick Leroy, il va se passer 4 ans entre les révélations sur Valérie Levillain, qui est donc la deuxième femme impliquée dans cette affaire, et puis la reconstitution. Mais pourquoi c'est si long? Alors, je sais bien que vous n'êtes pas juge.
Non, tout à fait. Mais et à ce moment-là, on n'est plus saisi d'affaires.
Bien sûr.
C'est en main de la justice. Alors, je n'ai pas de réponse tout à fait établie. On peut imaginer que, étant une vieille affaire, il y avait peut-être des affaires plus urgentes à traiter. C'est une affaire compliquée parce qu'on est quand même sur d'un côté des déclarations qui valent ce qu'elles valent, et puis une absence de preuves matérielles quasiment, puisque les scellés ont été détruits, la maison a été détruite.
Et la maison a été détruite.
Voilà.
Donc on ne peut plus faire de vraies reconstitutions.
Voilà, tout à fait. D'ailleurs, quand on a fait la reconstitution, on est obligé dans une salle, dans un gymnase, de reconstituer, avec les moyens du bord, en tout cas le volume de cette pièce où le meurtre avait été commis. Quoi. Alors après, si on dit absence de preuves, effectivement les scellés ont été détruits, mais quand on déroule les déclarations de Ghislaine Loquet sur l'endroit où les coups ont été portés, sur l'endroit où Gisèle Loquet est tombée, et ben à cet endroit-là, qui n'est pas si proche que ça de la cheminée, qui est quand même à plus de 2 mètres, on retrouve les lunettes de la victime cassées, et tachées de sang, et on retrouve un mégot, pas des mégots, un mégot, sur lequel on retrouve les traces biologiques, l'ADN de Valérie Levillain.
C'est ça.
Les autres mégots sont dans le cendrier, à leur place, sur la table.
Alors ça, c'est capital, ce que vous dites, parce que elle dit, Valérie Levillain, juste en mots, elle dit, j'étais dans une chambre, j'étais à côté. Moi, j'ai quasiment rien vu.
Tout à fait.
Et on est parti, on l'a laissé sur son fauteuil. Hein, c'est bien ça.
Oui, tout à fait.
Hein, donc, Frédéric Leterreux, effectivement, il n'y a plus rien dans cette histoire. Hein. La maison a été détruite.
C'est un hôtel à la place, maintenant.
Voilà, les scellés ont été détruits. On ne peut plus avancer.
Non.
Il n'y a que maintenant, c'est parole contre parole.
C'est tout à fait ça, c'est parole contre parole. Et une fois encore, je pense que c'est cette situation qui va jouer en faveur de Valérie Levillain.
L'ex-meilleur ami va être jugé à son tour. Gisèle Loquet, le mystère de la pantoufle rouge. Je n'en pouvais plus. J'ai demandé à Valérie de prendre la relève. Elle a étranglé ma belle-mère. L'enquête de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
C'est l'heure du crime jusqu'à 15h.
À Noël, on se pose toujours la même question. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir offrir ? Un parfum ? Classique. Des chaussettes ? Bof. Un cadeau qui décrochera un waouh au pied du sapin ? Ouais. Mais quoi ? Et si la réponse se trouvait chez Cultura ? En ce moment, profitez d'un Noël plein d'idées. Leurs conseillers sont là pour vous aider à trouver des cadeaux culturels à prix doux pour toute la famille. Avec Cultura ou sur cultura.com, plus besoin de chercher des idées. Elles sont toutes là. Cultura, la culture avec un grand A.
RTL.
RTL Matin, avec Thomas Soto, c'est de l'analyse politique avec Étienne Jernel.
Le Premier ministre explique que l'instabilité coûte cher et que le fait de ne pas avoir de budget coûte très cher. Ça. Et c'est vrai.
De l'économie, de la santé, les dernières infos internationales pour regarder le monde autrement.
Il faut prouver aux Russes et aux Américains qu'au final, c'est Zelensky qui aura le dernier mot, que c'est lui qui signera ou pas cet accord de paix que beaucoup sont pressés de voir conclure.
Tous les jours, 7h, 9h30, c'est RTL Matin.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Pour vous aussi, Emma ?
Et pour toute la famille ?
Eh oui ! Tous les vendredis, samedis et dimanches, exclusivement avec ma carte Netto, cagnotez sur votre carte 10% du montant dépensé sur tout le rayon pain, viennoiserie et pâtisserie.
Oh, trop bon !
Au fait, on dit pain au chocolat ou chocolatine ?
Alors là, je sais pas.
L'offre est valable pour les deux ! Toutes les fins de semaine !
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Offre réservée aux porteurs de ma carte Netto. Plus d'infos sur netto.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Panier piano, panier piano. Ah, plus facile à offrir qu'à dire. Et oui, pour Noël chez Gamme Vert, on vous prépare un délicieux panier de produits du terroir. Et jusqu'à samedi chez Gamme Vert, le panier garni est à 21,99€. Gamme Vert, l'autoproduction et l'avenir. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
14h-15h.
C'est l'heure du crime sur RTL.
Avec Jean-Alphonse Richard.
Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Gisèle Loquet, une veuve, 67 ans, retrouvée carbonisée chez elle en 98, sa belle-fille condamnée à 7 ans de prison, une autre femme accusée, elle aurait participé à l'expédition meurtrière, elle est jugée, elle, 16 ans après les faits. Vendredi 10 octobre 2014, Valérie Levillain, 46 ans, est à son tour devant les assises du Calvados dans le dossier Gisèle Loquet. Elle comparaît libre. Au moins trois femmes l'accablent. La première, c'est celle qui l'a dénoncée à la justice. Valérie lui aurait confié avoir frappé la veuve. Une dénonciation pour se venger de moi, soutient Valérie Levillain, sa sœur. La présente aussi comme une meurtrière. Un règlement de compte familial, réplique l'accusé. L'accusé qui nie enfin le récit de son ex meilleure amie, Ghislaine Loquet, qui a donné plusieurs versions. Elle avait fini par déclarer que Valérie était à Califourchon pour étrangler sa belle-mère. Désormais, Ghislaine est beaucoup moins affirmative. « Je ne sais plus, je ne me souviens plus », dit-elle. À propos de la bagarre à la fermette, elle raconte « Je n'en pouvais plus. J'ai demandé à Valérie de prendre la relève. Elle a étranglé ma belle-mère. On l'a mise dans un drap, assise dans un fauteuil, et on a mis un bout de ce drap dans la cheminée. » Valérie Levillain reconnaît sa présence dans la fermette, mais elle répète qu'elle n'a pas frappé Gisèle Loquet. Son avocate dénonce des souvenirs en pointillés de Ghislaine, l'accusatrice. « Quel mobile aurait eu ma cliente pour tuer cette femme ?» demande l'avocate qui ajoute « Madame Levillain n'a été coupable que de lâcheté. » L'avocat général reconnaît que dans ce procès, c'est parole contre parole entre deux femmes devenues ennemies. Il réclame 12 ans de prison après 3 heures de délibéré. Valérie Levillain est acquitté. Acquitté. Frédéric Leterreux, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, journaliste. Vous avez suivi toute cette affaire et vous avez suivi tout ce procès. Vous étiez là, vous avez vu l'intensité de ce procès. Et pourquoi est-ce qu'elle est acquittée ? Il n'y a pas de charge ? Il n'y a pas de preuve ?
Ben, il n'y a pas de charge. Et tout d'abord, il faut souligner une très belle plaidoirie de l'avocate de la Défense. Dieu sait si j'en ai entendu beaucoup, mais celle-là était particulièrement brillante. Et elle a démonté pièce par pièce... Enfin, elle a démonté toutes les pièces à charge de l'accusation. Elle a aussi démonté les trois témoignages
Des
trois femmes, qu'il a chargé terriblement, mais une fois encore avec des déclarations à géométrie variable, donc qui n'étaient peut-être pas aussi fiables que ça. Donc elle a démonté tout ça, et faut pas. Et vous l'avez tout à l'heure dit dans votre propos, Jean-Alphonse, c'est qu'à un moment donné, l'avocat général, même s'il requiert 12 ans de prison et demande en tout cas de pas descendre au-dessous de 10, il laisse un petit peu une porte ouverte.
Il y croit pas.
Il y croit pas, et il dit c'est parole contre parole.
Oui, c'est ça. C'est, dès lors, dans un procès d'assises, lorsque vous dites, du côté de l'accusation, c'est parole contre parole, vous ouvrez une porte largement ouverte, effectivement, à un acquittement. Commandant Yannick Leroy, vous êtes avec nous dans cette heure du crime à l'époque, vous avez dirigé toute cette enquête, vous allez venir à ces procès chaque fois pour témoigner, on vous appelle, c'est normal, vous connaissez les tenants et les aboutissants des investigations passées. Ghislaine Loquet, la première condamnée dans ce procès, elle va être très très dure avec Valérie, son ex-copine, parce qu'elle va, notamment à la reconstitution, elle a dit c'est elle qui a étranglé.
Oui, tout à fait, c'est le troisième rebondissement de cette affaire.
Ouais.
Il est très rare qu'une reconstitution apporte des éléments nouveaux. En général, globalement, elle ne sert pas à grand-chose, à part confirmer les hypothèses de l'accusation. Et là, non. Ghislaine Loquet, pour la première fois, explique, devant les magistrats, devant la juge d'instruction, en présence des avocats et en présence de sa belle-sœur, Valérie Levillain, elle explique comment le feu a été mis. Comment elles ont pris un drap et ont posé ce drap sur le fauteuil, sur la victime, et l'ont mis jusque dans la cheminée.
Et le feu sur le drap s'est propagé à la victime.
Et voilà. Et moi, je me souviens, là, ces déclarations, je suis présent à ce moment-là. Ces déclarations font tilt. Puisque, comme j'étais sur la scène de crime d'origine, j'ai fait des constatations. Et je me souviens que dans la cheminée, j'ai découvert et saisi une trame de tissu.
C'est ça.
Alors donc c'est le premier élément.
Pour vous, ça c'est clair.
On fait dire, ça y est, c'est bon, on a compris, on a compris. Et ensuite, Ghislaine Loquet nous explique comment les coups ont été frappés, où la victime est-elle tombée. Elle n'est pas tombée devant l'âtre, elle est tombée à 2 mètres de la cheminée. Et à l'endroit où elle nous désigne l'endroit de chute de Madame Loquet. Et bien nous, à l'époque, on trouve la paire de lunettes de la victime, cassée, tachée de sang.
Cassée et le mégot.
Et un mégot, sur lequel on retrouve l'ADN de Valérie Levillain.
Ouais. Donc pour vous...
Donc ces trois éléments-là, là, ils sont factuels, qui sont des éléments de constatation, même si les scellés, on les a plus. À l'époque, on les avait bien identifiés et saisis. Pour moi, ça corrobore les déclarations de Ghislaine Loquet.
Pour vous, il y a une logique. En tout cas, tout ça est très cohérent. Encore une question, Yannick Leroy. Pourquoi elle est si dure avec son ex-copine? Parce que là, elle est pas obligée de dire elle a étranglé, elle était à Califourchon, on imagine la scène, parce que c'est tout à fait horrible. Si telle est la mort, on peut vraiment se poser des questions, parce que c'est très barbare.
Alors, quand nous avons placé Valérie Levillain en garde à vue et réentendu Ghislaine Loquet, plusieurs années avant ce procès, en fait, le fils de Ghislaine Loquet était au courant. On a su par les écoutes téléphoniques qu'il était au courant que Valérie Levillain était responsable, en partie responsable dans cette affaire. Et donc c'est vrai que son fils était en porte-à-faux, il aurait pu être poursuivi pour non-dénonciation de crime. Et effectivement, Ghislaine, à ce moment-là, pour protéger son fils, n'a pas eu d'autre solution.
C'est ça, elle a pris sur elle.
Elle a pris sur elle.
D'accord, je comprends.
Parce qu'elle avait tué depuis le début, en grande partie pour protéger donc sa belle-sœur, mais surtout son petit frère, qu'elle a protégé toute sa vie. Quand elle était martyrisée par Ghislaine Loquet, elle protégeait aussi son petit frère. Et donc, on a parlé de pacte. Il n'y a sûrement pas un pacte. C'est peut-être même un arrangement. Comment dire C'est un pacte tacite. Je protège ma belle-sœur pour protéger mon petit frère.
Mais c'est ça. Non, mais je comprends.
Et de toute façon, si je n'avais pas été présente ce soir-là. Ma belle-sœur n'aurait pas commis.
Oui, c'est ça.
Elle prend la charge.
Oui, c'est ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure au cimetière. Elle avoue parce qu'elle prend sur elle tout ça. C'est à cause d'elle. Elle a entraîné sa meilleure copine dans cette histoire. Elle s'en sort pas et finalement elle avoue. Et puis ensuite, évidemment, la pelote finit par se délier. Frédéric Le Terreux. Le mobile, on l'a un petit peu pour Ghislaine. Elle détestait sa belle-mère, on l'a compris. C'était une enfant battue, c'est épouvantable, cette marâtre alcoolique. Mais on l'a pas du tout pour Valérie.
Non, il y en a pas.
Parce que si on dit c'est elle qui a étranglé, mais qu'est-ce qu'elle y gagne, Valérie?
Quel était l'intérêt, cette femme?
Ben voilà.
Aucun.
Alors on peut se poser la question.
Yannick Leroy.
Effectivement, si on se place dans l'hypothèse où il y a eu des coups portés sur cette femme de près de 70 ans, et que les deux femmes partent alors que cette femme est encore vivante, si on se place dans cette hypothèse-là, elles auront très bien pu penser, Madame Gisèle Loquet, demain matin, va appeler la police et se plaindre d'eux.
On est d'accord.
Donc, la tuer, c'est aussi,
je suis
un témoin absolument gênant.
Je suis d'accord, mais
c'est une hypothèse.
Mais la personne qui est accusée d'avoir étranglé, je dis bien étranglé, là, on passe dans une autre dimension, hein, c'est la dimension criminelle.